Selon le calendrier, nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. C'est donc la fête de la Pentecôte. Cette fête, comme nous l'avons déjà entendu ce matin, célèbre la venue de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sur les disciples le 50e jour après Pâques. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a reçu ce nom de Pentecôte, car ce nom signifie en grec le 50e. L'événement de la Pentecôte qui nous est rapporté par l'évangéliste Luc dans le livre des Actes des Apôtres ne peut être compris, je dirais, qu'en lien avec Pâques et l'ascension de Jésus-Christ. Mort pour le salut du monde le vendredi saint, ressuscité le jour de Pâques et parti rejoindre le Père à l'ascension, Jésus envoie à ses disciples le Saint-Esprit, son esprit à la Pentecôte. Ces sept semaines qui vont de Pâques à la Pentecôte doivent être prises, je dirais, dans son ensemble, comme formant un tout dont le couronnement est donc la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Et je parle de couronnement car cet événement est très, très, très important car il ouvre une ère, une nouvelle ère dans ce monde, dans l'histoire des hommes, ou comme disent les théologiens, une nouvelle dispensation, celle du Saint-Esprit œuvrant dans le cœur des hommes. Avant de lire le passage biblique que j'ai choisi ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, j'ouvre ici une parenthèse pour dire qu'on reconnaît généralement que Dieu dirige, que Dieu a dirigé le cours de l'histoire de ce monde dans ce qu'on appelle des âges ou des dispensations, chacune ayant eu ses propres caractéristiques particulières. Celle-ci ouvre la période de ce que la Bible appelle les derniers jours, celle du Saint-Esprit et de l'Église. L'effusion du Saint-Esprit a permis l'engendrement de l'Église de Jésus-Christ dans ce monde, la naissance du nouveau peuple de Dieu. On pourrait donc dire qu'il s'agit aujourd'hui de la fête de l'Esprit-Saint, mais aussi de l'Église de Jésus-Christ. Les deux sont liés, la fête de l'Esprit-Saint, la fête de l'Église de Jésus-Christ. Car ce moment a été décisif pour la naissance de l'Église et aussi son expansion dans le monde jusqu'à nos jours. Et ce moment inauguré lors de la Pentecôte à Jérusalem, donc dure encore, il durera jusqu'au retour de Jésus-Christ qui viendra donc chercher son Église. Alors je propose maintenant de lire la description que Luc nous donne de cet événement dans Actes chapitre 2. On va lire d'abord du verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis dans la traduction seconde 21. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre langue maternelle? Partes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juif de naissance ou par conversion, crétois et arabe, nous les entendons parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vent doux. » Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre se lève et se met à prêcher la bonne nouvelle, l'évangile à ces gens-là. Il était 9 heures du matin, nous dit Luc. Et donc, ce qui était en train de se passer ce jour-là à Jérusalem a été annoncé, nous dit Luc, par le prophète Joël. Nous l'avons, Eric l'a cité déjà ce matin, qui a dit, à partir du verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Et ensuite, l'apôtre Pierre annonce donc le personnage essentiel de l'évangile du christianisme, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu dans le monde, qui a été crucifié selon le projet de Dieu, dit-il, et qui est ressuscité, car, dit-il, il était impossible que la mort le retienne captif. Et dans sa prédication, il cite des textes de l'Ancien Testament pour prouver que Dieu avait finalement tout prévu d'avance et que tout ce qui était en train de se passer et qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ s'est accompli selon son plan. Et puis au verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. » Et pour terminer, Luc nous dit, au verset 37 et les versets suivants, qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude, ou dans d'autres traductions, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Et Luc nous dit encore ceci, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. » Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je vous laisse la suite pour peut-être cet après-midi chez vous à la maison, car ça vaut la peine de lire ce passage en entier. Voilà donc le récit que Luc nous donne. Luc, le médecin bien-aimé, l'évangéliste, le compagnon de l'apôtre Paul, ce récit qu'il nous a laissé autour des années 60 de notre ère. Et dans tout ce livre des actes, il montre que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre de manière puissante. Et il est à l'œuvre de manière puissante dès le début, à l'origine même de l'Église. Il fait référence dans son livre à l'action du Saint-Esprit des dizaines de fois. Et il nous rapporte non seulement cet événement à Jérusalem, cet événement merveilleux, fantastique à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, mais aussi celui d'Actes chapitre 10, vécu par des non-juifs qui font leur entrée eux aussi dans l'église du Christ, et celui d'Actes chapitre 8, où les Samaritains se convertissent aussi, n'est-ce pas, les Samaritains qui étaient ni juifs, ni tout à fait païens. Donc, ils font leur entrée aussi, ils embrassent la foi chrétienne et ils se joignent à l'Église du Christ. C'est d'ailleurs pour cela que ce livre est souvent appelé le livre des actes de l'Esprit Saint. Car ce qu'on voit, c'est que finalement, les apôtres, les disciples, ne sont que des instruments utilisés par l'Esprit Saint pour que le Seigneur accomplisse son œuvre dans ce monde. C'est lui, en tout cas, qui appelle juifs et non-juifs à accepter le Christ comme sauveur et Seigneur. Et c'est lui qui utilise donc les uns et les autres de manière puissante pour la propagation de son règne sur cette terre. En ce qui concerne cet événement de la Pentecôte, il faut d'abord dire qu'il a été prédit par les prophètes, par Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, et il avait été annoncé par Jésus-Christ lui-même à ses disciples avant de quitter cette terre. Pierre, dans sa prédication, cite le prophète Joël, mais il y a eu d'autres prophètes qui ont annoncé cet événement. Il y a par exemple le prophète Ézéchiel qui a annoncé cette œuvre future de l'Esprit lorsqu'il a dit « Je vous donnerai un... » C'est Dieu qui parle par le prophète. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et dans un autre chapitre, il cite exactement les mêmes paroles et il rajoute ceci « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Les prophètes ont donc annoncé cet événement. Ils ont annoncé que l'Esprit viendrait faire une œuvre, mais une œuvre de purification des cœurs, de consécration au Seigneur et à ses commandements. Je trouve que c'est ça l'essentiel. Et en même temps, il viendrait rassembler le nouveau peuple de Dieu sur cette terre. Jean-Baptiste, lui aussi, l'a annoncé alors qu'il prêchait un message de repentance au bord du Jourdain en Palestine et qu'il baptisait ceux qui confessaient leurs péchés. Il a dit aussi à ses auditeurs, « Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Dans ces paroles de Jean-Baptiste, il y a l'idée d'abondance, donc le baptême. On sait que le baptême est une immersion dans l'eau, donc l'idée d'abondance et de purification transmise aussi par cette idée du feu, le feu qui purifie. Et Jésus lui aussi, il a annoncé à ses disciples. Il leur a dit qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Lors du dernier repas pascal qu'il a pris avec eux, Jésus leur a donné un enseignement sur ce qui se passerait après son retour auprès du Père, après l'ascension, son ascension. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a parlé donc de la venue du Saint-Esprit sur eux, le Saint-Esprit qui allait leur envoyer, le paraclet, comme il l'a appelé, c'est-à-dire le consolateur, l'avocat, l'esprit de vérité qui leur enseignerait toutes choses et leur rappellerait ce qu'il leur avait enseigné. L'évangile de Jean nous rapporte donc ces paroles concernant l'Esprit Saint. Je vais citer « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et ça c'est très important, Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage du Christ. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous les disciples, vous rendrez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Cette promesse, il l'a réitérée après sa résurrection, au moment donc de son ascension, c'est-à-dire une dizaine de jours plus tôt, lorsqu'il leur a demandé, dans Actes chapitre 1, verset 4, de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et il leur a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Cette promesse s'est effectivement réalisée le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et grâce à l'action du Saint-Esprit en eux, les disciples ont pu en effet annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile ce jour-là, cette bonne nouvelle qu'ils avaient reçue du Christ. Et ils l'ont fait de manière puissante, de manière fidèle, de manière courageuse. Ils l'ont fait d'abord de manière orale pendant quelques dizaines d'années. Quelques années plus tard, ils ont décidé de consigner par écrit ce message qu'ils avaient annoncé un peu partout dans les églises et de les laisser ainsi aux générations futures et à nous notamment qui pouvons aujourd'hui lire librement les évangiles, les actes des apôtres, les lettres apostoliques. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le jour même de la Pentecôte, au moment où ils reçoivent cette puissance du Saint-Esprit qui vient sur eux, qui entre en eux, ils ont le courage de sortir de la chambre haute, de la salle du Cénacle, où ils s'étaient enfermés de manière craintive, n'est-ce pas? Et ils ont le courage de quitter cette salle et de venir dans la ville annoncer, témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont le courage de sortir et de venir prêcher à la foule, sans crainte, l'évangile du Christ. Ils ont le courage de baptiser ces 3000 personnes devant tout le monde, n'est-ce pas, ces 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là au Seigneur. Le Saint-Esprit a enlevé de leur cœur donc la crainte, la peur même des autorités religieuses et politiques, la timidité. Et c'est donc cette puissance du Saint-Esprit qui les pousse à aller évangéliser et témoigner. Et le résultat, Luc nous dit, ce jour-là, après la prédication de Pierre, donc il y a eu toutes ces conversions. 3000 personnes se sont converties au Seigneur, se sont faites baptiser et se sont mises à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc il y a eu l'annonce de l'Évangile et il y a eu la suite après, n'est-ce pas, le rassemblement autour de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. On peut donc comprendre que cet événement de la Pentecôte était un événement décisif. Un événement décisif pour l'Église naissante. C'est là, avec l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples et son action dans le cœur de chacun d'eux, en tout cas de ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là, de ces disciples qui ont vu et qui ont donc reçu cette puissance de Dieu, et de tous ceux qui étaient autour d'eux et qui ont vu ce qui se passait et qui ont aussi entendu les messages de l'Évangile, que l'Église a vu le jour, que l'Église est née. L'Église de Jésus-Christ, celle qu'il a promis de bâtir contre vents et marées, n'est-ce pas? Quand il a dit que même les portes de l'enfer ne pourraient rien contre elle, cette Église-là a vu le jour ce jour-là, non pas par une volonté humaine, mais par la force et la puissance du Saint-Esprit. On peut dire que cette Église est une force irrésistible, une force indestructible. Et la preuve, c'est que 2000 ans après, elle est toujours là et elle continue de grandir. Car l'Esprit de Dieu est avec elle. L'Esprit de Dieu ne la quitte pas. À la suite de cet événement, l'évangile a donc commencé à se propager un peu partout, et je pense que les pèlerins qui sont venus à Jérusalem et qui ont accepté le Christ sont repartis en témoignant aussi dans leur ville, dans leur village, de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils ont reçu, de l'évangile qu'ils ont reçu. Et encore aujourd'hui, cet évangile continue, il poursuit son chemin un peu partout. Cette fête de la Pentecôte est donc très significative, car elle nous rappelle l'acte fondateur de l'Église, la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Le Saint-Esprit sans lequel l'Église ne serait pas. Elle nous rappelle la descente du Saint-Esprit sur les enfants du Seigneur et les choses extraordinaires qu'ils ont pu accomplir grâce à la puissance qu'ils ont reçue. C'est donc la venue de l'Esprit-Saint que nous célébrons, mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi l'Église que nous célébrons. La naissance de l'Église, le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, ce peuple qui est en train de se constituer petit à petit, et nous espérons que par le témoignage et l'évangélisation de nos églises, ce peuple grandisse de plus en plus, ce peuple que Dieu est en train de former sur cette terre pour régner avec lui pour l'éternité. Le récit que Luc nous donne parle de vent et de feu. Un bruit comme celui d'un vent violent, des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Vous savez que le feu et le vent manifestent, comme dans beaucoup d'autres récits bibliques, la présence de Dieu au milieu de son peuple. La présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu présent au milieu des siens par son Esprit Saint. Les langues de feu témoignent de la venue de l'Esprit sur les disciples, sur chacun des apôtres. Esprit de Dieu qui leur donne la capacité de se faire comprendre de tous leurs auditeurs présents à Jérusalem ce jour-là. Et le texte indique qu'il y avait des Parthes, des Mèdes, des Juifs de naissance, ou des prosélytes, des Arabes, etc., etc., et que chacun entendait le message de l'Évangile dans sa propre langue maternelle. Dieu a opéré un miracle là. Dieu a opéré ce miracle ce jour-là, miracle que Dieu a estimé sans doute nécessaire ce jour-là pour que toutes ces personnes venues à Jérusalem entendent l'Évangile et ne repartent pas chez elles sans avoir entendu et reçu la parole de Dieu dans leur cœur. Mais aussi pour que l'Église sache dès le départ qu'elle avait une mission qui était une mission universelle. La prédication de l'Évangile est une mission universelle. Voilà donc ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Le Seigneur envoie son Esprit sur les siens et il donne naissance à son Église et il le fait avec force et puissance. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? C'est vrai, l'Église est là, et si elle est là, c'est parce que le Saint-Esprit est avec elle. Mais est-ce que le Saint-Esprit est vraiment encore et toujours avec l'Église du Christ, avec nous, puisque nous sommes l'Église du Christ aujourd'hui, avec nous, membres du peuple de Dieu, disciples de Jésus? Avons-nous vraiment le Saint-Esprit avec nous, comme les disciples l'ont eu à ce moment-là? Comment reçoit-on le Saint-Esprit? Voilà la question que peut-être il ne fallait pas poser, c'est ça? Il faut la poser, oui, il faut la poser, sans avoir peur de la poser. Si nous la posons dans le respect des expériences des uns et des autres. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des églises de toutes sortes, comme d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Il y avait par exemple cette église de Corinthe, qui était certes la pire église du Nouveau Testament, il faut le dire. Il y avait aussi l'église des Philippiens, qui est l'église que j'aime le plus dans le Nouveau Testament. Et il y avait toutes les autres. Mais ce sont des églises qui sont là et qui sont là au nom du Christ. Donc nous pouvons nous poser la question si nous nous posons dans le respect des expériences des uns et des autres. Je sais qu'il y a pas mal d'interprétations sur cette question. Il y a l'interprétation catholique, il y a l'interprétation charismatique, il y a l'interprétation charismatique, il y a l'interprétation évangélique traditionnelle. Toutes les églises qui sont là à Clermont-Ferrand et qui représentent toutes ces sortes d'interprétations. Dans notre Église, nous n'avons pas tous le même arrière-plan spirituel et religieux. Nous le savons bien. Et nos expériences avec le Seigneur peuvent être différentes. En ce qui me concerne, je ne peux parler que de ma propre expérience à moi, qui est sans doute différente de celle de certains d'entre vous. Et je pense que si je le fais, et je pense que si nous le faisons, nous pouvons le faire sans mettre en doute l'expérience différente de l'autre, qui peut être différente. Mais j'aimerais quand même me rendre attentif, chacun de nous, à certaines choses qui me semblent nécessaires pour avoir une vision biblique de l'action du Saint-Esprit. La première chose qu'il fallait sans doute dire, c'est qu'il y a dans la Bible des textes qui sont des textes narratifs, des textes qui expliquent ce qui s'est passé, des textes descriptifs. Des textes qui nous disent donc ce qui s'est passé à tel ou tel moment. Et il y a aussi des textes exhortatifs, des textes qui nous disent ce que les chrétiens de toutes les époques peuvent et doivent faire. Moi, personnellement, je le dis personnellement, c'est mon témoignage, je ne cherche pas à copier ou à imiter les expériences des uns et des autres. Le Saint-Esprit, s'il veut faire quelque chose dans ma vie, il le fera, si je suis ouvert à son œuvre. Et donc, je ne cherche pas à imiter tel ou tel mode, parce que depuis un certain temps, il y a des modes aussi dans les églises. Il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas où, à Toronto, et hop, tout le monde commence à faire la même chose, n'est-ce pas? Ça, je l'ai vu dans une église où j'étais pasteur aussi. Ce sont des modes. Ce sont des modes, et moi, je ne cherche pas à imiter ces modes-là. Par contre, s'il y a quelque chose, une expérience riche qui me touche, oui, peut-être que le Saint-Esprit aussi peut travailler dans ma vie de cette manière-là. Mais je cherche surtout à obéir à ces textes exhortatifs de la parole de Dieu. Des textes bibliques qui me disent ce que je dois faire et qui me disent de m'approprier donc ce que la parole de Dieu, ce que Dieu me promet à moi et à chaque chrétien. Et une première chose que je constate, c'est que lorsque Jésus-Christ a dit à ses disciples d'aller faire des disciples dans toutes les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de leur enseigner à observer tout ce qu'il leur avait prescrit, il a ajouté ceci, « Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La promesse est donc pour nous aussi, pour les chrétiens de toutes les époques et pour nous aujourd'hui. Il nous promet d'être avec nous pour nous accompagner chaque jour jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Depuis la Pentecôte, on sait que le Seigneur est avec nous par son Esprit, le Saint-Esprit. Et ce, jusque donc à la fin du monde, le Saint-Esprit est avec nous, il travaille avec nous. Cela veut dire qu'aujourd'hui encore, l'Esprit est à l'œuvre. Il continue d'agir dans le cœur des enfants du Seigneur, dans la vie des disciples du Christ. Il continue à faire son œuvre de conviction dans le cœur des pas encore chrétiens. La preuve, c'est qu'il y a des personnes qui continuent à donner leur vie au Seigneur Jésus, qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Chaque fois que quelqu'un répond positivement à l'appel du Seigneur, à l'appel de l'Évangile, il a répondu à l'appel du Saint-Esprit qui est venu en lui, le toucher et lui parler. La nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Au cours de ce fameux repas, déjà cité à plusieurs reprises, où Jésus prend fête Pâques avec ses disciples, il a annoncé qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Il a expliqué que l'une des fonctions du Saint-Esprit serait de convaincre les gens, je cite, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Autrement dit, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit que nous pouvons entendre Dieu nous parler et que nous répondons donc positivement à ce qu'il nous dit sur notre situation en tant que pécheurs et sur le besoin que nous avons de recevoir le Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Esprit de l'homme, donc pour le convaincre de la nécessité de recevoir le salut. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que le Saint-Esprit est venu en nous et nous a parlé et nous a convaincus. Il est donc impossible de devenir chrétien, puis de grandir dans la foi sans l'assistance de l'Esprit-Saint en nous. Pour moi, être chrétien, c'est avoir reçu l'Esprit de Dieu. Pour moi, être chrétien, c'est avoir reçu l'Esprit de Dieu. À partir de ce moment-là où le Seigneur m'a touché par son Esprit et que je me laisse convaincre et que je laisse commencer à transformer ma vie, le Saint-Esprit est en train d'agir en moi. Pour moi, il n'y a pas de doute sur cette question-là. C'est d'ailleurs pour cela que les apôtres s'adressent toujours à leurs destinataires. Quand on lit le Nouveau Testament, c'est ce qu'on voit, comme à des hommes et des femmes en qui l'Esprit habite. En qui l'Esprit habite. Il y a plusieurs textes où les apôtres s'adressent à tous les chrétiens en disant « L'Esprit habite en vous ». Et l'apôtre Paul leur dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel ils ont été scellés pour le jour de la rédemption. D'autre part, je constate que Jésus n'a pas dit à ses disciples de demander à recevoir le Saint-Esprit. Je ne vois pas ça dans le texte. Il leur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit, je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer celui qui vous convaincra et qui vous accompagnera chaque jour, vous consolera, vous guidera, l'Esprit de vérité. Je vais vous l'envoyer. Et les apôtres n'ont pas demandé au Saint-Esprit de venir en eux. Le Saint-Esprit est venu de lui-même sur eux. Ils ont été surpris. Il a envahi le lieu où ils se trouvaient, les a surpris et les a bouleversés par une expérience qu'ils n'avaient jamais encore faite auparavant. Et l'apôtre Pierre dit dans son message le jour de la Pentecôte, verset 38, « Repentez-vous, ou changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ce qu'il dit tout de suite. « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il ne leur a pas dit « Repentez-vous, faites-vous baptiser, et après, demandez le don du Saint-Esprit. » Non, non. « Et vous recevrez le Saint-Esprit. » C'est son affirmation, c'est son message. La promesse est là. La promesse est là. Pour chacun de nous, pour nous tous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. » Voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ce que l'apôtre Paul est en train de dire à ces chrétiens de Galatie, à Rome, c'est qu'en écoutant la prédication de l'Évangile et en recevant avec foi donc son message, ils ont déjà ouvert la porte au Saint-Esprit dans leur vie. Ils ont reçu l'Esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui opère le plus grand miracle, celui de notre conversion à Jésus-Christ, et c'est lui qui, à partir de ce moment-là, commence à faire une œuvre de transformation, de renouvellement de notre vie tout entière. C'est lui qui opère en nous, dit l'apôtre Paul encore, le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est lui qui nous donne la force et l'hardiesse, comme il a fait le jour de la Pentecôte aux disciples, de témoigner du Seigneur, de l'Évangile autour de nous. C'est lui qui renouvelle, dit l'apôtre Paul encore, notre intelligence et qui nous donne le discernement, ce discernement dont nous avons tellement besoin pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le discernement pour savoir ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. C'est lui aussi qui nous donne les capacités et les dons nécessaires à mettre au service dans la vie de l'Église pour son édification. Quelqu'un qui manifeste dans sa vie chrétienne ces caractéristiques-là a le Saint-Esprit en lui. Je n'ai pas de doute, il a le Saint-Esprit en lui. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » L'Esprit de Dieu est venu vers nous, il est entré en nous pour nous sauver. Il est venu en nous pour transformer notre vie, pour nous régénérer, pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Il est venu dans notre vie pour nous donner la force et l'intelligence nécessaires pour mieux vivre notre vie chrétienne, pour mieux connaître, aimer et servir notre Dieu et notre prochain. Que voulons-nous de plus? Le Seigneur et son Esprit est avec nous. L'apôtre Paul nous exhorte à nous laisser remplir continuellement de son Esprit, alors que nous puissions le faire, que nous puissions ouvrir vraiment notre vie à l'action de son Esprit, cet Esprit qui nous purifie aussi de nos manquements, de nos péchés. Laissons-nous, laissons-le remplir continuellement de son Esprit. Que notre vie demeure donc chaque jour sous le contrôle continuel de son Esprit. Et le Seigneur nous bénira richement et il bénira à travers nous son Église dans le monde.